Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelles circonstances est mort Steve Maya Canisso lors de la fête de la musique à Nantes? Le corps du jeune homme de 24 ans a été repêché lundi dernier dans la Loire. Mais l'enchaînement des faits est confus, a reconnu le Premier ministre Édouard Philippe, qui a donc commandé une nouvelle enquête administrative. L'opposition dénonce, elle, une répression aveugle et un régime macroniste qui ne contrôle plus rien. Alors Christophe Castaner est-il menacé à la tête du ministère de l'Intérieur? Et puis faut-il revoir les méthodes de maintien de l'ordre au terme d'une année compliquée, marquée par de multiples débordements lors des manifestations des Gilets jaunes? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Steve, une affaire d'État ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chapuis. Vous êtes reporter au service police-justice du journal Le Monde. Le Monde qui titre en une « Mort de Steve Maya Canisso, zone d'ombre et polémique ». Nous accueillons Christophe Rouget. Vous êtes commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure SCSI-CFDT. Nous accueillons Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste à l'Opinion, et je cite votre dernier article ce matin, « Mort de Steve Maya Canisso, Édouard Philippe détourne l'attention vers la mairie et la préfecture ». Et enfin, Damien Delceni, vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, en charge du service police-justice. Alors Nicolas Chapuis, cette affaire prend une ampleur nationale depuis qu'on a repêché le corps. Il faut dire que tous les parents s'identifient à ce drame. Ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire national du Parti socialiste, disait « Désormais, je le cite, une question se pose, est-ce que si je laisse mes enfants aller à une fête, ils pourront revenir vivants ?» C'est une question de parents, ça. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de cette affaire, ça prend de plus en plus d'ampleur, alors que finalement, l'affaire avait commencé assez doucement. Ça a mis du temps, ça a mis quelques jours à ce qu'on entende parler de cette soirée-là où il y aurait d'abord eu des heurts avec la police, puis finalement disparu. Et peu à peu, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure, la question où est Steve a pris de l'ampleur. Au début, c'était un peu sur la ville de Nantes et dans la région. Et puis finalement, ça devient une affaire nationale au cœur de l'été, de manière assez pragmatique, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'actu autour, mais surtout parce qu'il y a cette question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la mort de Steve et l'intervention de police ?
Alors, l'IGPN dit non.
Pour l'instant,
mais apparemment, le Premier ministre ressent la nécessité d'ordonner une seconde enquête.
Voilà, pour l'instant, il est impossible de l'affirmer de manière certaine, mais des morts dans des interventions de police ou de gendarmerie, c'est assez peu fréquent en France, donc ce qui explique quand même l'ampleur que prend cette affaire-là. Et ce qui est sûr, c'est que dans la personne de Steve, dans le personnage qu'on découvre à travers les différents articles, voilà, il y a une forme d'identification pour plein de jeunes, pour plein de familles qui se demandent. Finalement, il n'a strictement rien fait. Il est sorti pour aller faire la fête et pour écouter de la musique, et au bout de la soirée, il a trouvé la mort dans des circonstances
qui restent à élucider. Parce que malheureusement, il ne sait pas nager.
Malheureusement, il ne sait pas nager. Et donc, forcément, dans cette affaire, il y a quelque chose qui touche un peu tout le monde.
Damien Delceni, on le disait à l'instant, on a l'impression qu'il y a eu un retard à l'allumage, peut-être un manque de compassion de la part du gouvernement. En maintenant, en tous les cas, on est le 31 juillet et c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est à la manœuvre. Que craint le gouvernement? Que craint l'exécutif avec cette affaire, Steve?
Ils craignent que ça devienne l'affaire d'été déjà, parce qu'ils ont déjà eu l'année dernière quelques soucis avec l'affaire Benalla, qu'ils ont traîné un peu comme un sparadrap pendant tout l'été et même après. Donc ils craignent, je pense, qu'effectivement quelque chose se cristallise autour de ça. Après, est-ce que la décision de faire monter Édouard Philippe, qui de ce qu'on sait a plus ou moins été quand même piloté aussi par Emmanuel Macron à distance, qui a dit qu'il fallait quand même que là on se montre un peu et qu'on prenne les choses un peu au sérieux, c'est peut-être une forme de tutorat aussi du ministre de l'Intérieur qui n'est pas forcément très bien vu en ce moment.
Il y avait un risque politique à le laisser manœuvrer.
Il est fragilisé de toute façon avant cette affaire-là, donc le faire monter en première ligne alors qu'il est déjà fragilisé sur une affaire qui n'est pas complètement limpide, c'était le fragiliser encore plus et c'était peut-être rendre sa parole un peu plus inaudible en mettant Édouard Philippe en avant. Il y a peut-être un souci de clarté, un peu supérieur. Mais c'est sûr que cette affaire, elle s'est un peu gangrénée, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a sans doute pas été prise au sérieux politiquement, parce que policièrement, on en reparlera, les choses, elles ont été faites dans l'ordre et la justice a été saisie en temps utile, etc. Mais politiquement, elle a sans doute été un peu dédaignée pendant un certain temps. Et effectivement, ils n'ont pas vu tellement la vague arriver, je pense.
Et d'ailleurs, ouais. pas que de la part de la majorité. L'opposition aussi, au début de l'affaire, n'est pas vraiment montée au au créneau sur cette affaire-là. Et c'est plus la mobilisation de la société civile à Nantes et des proches de Steve qui finalement a donné un écho important à cette affaire.
Alors justement, Ivan Trippenbach, il y a une première enquête de l'IGPN, donc la police des polices, qui dit qu'il n'y a aucun lien entre le fait que la mort de Steve et l'intervention de la police. Et néanmoins, le Premier ministre a dit ça reste, l'enchaînement des faits reste confus, donc j'ai demandé une nouvelle enquête à l'IGA. Alors, c'était le sens de votre article, vous y voyez une manœuvre habile pour détourner les regards vers la mairie de Nantes. Pourquoi ?
Alors, manœuvre, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le Premier ministre se fonde effectivement sur le rapport de l'IGPN, de la police des polices, qui dit que au stade de la rédaction, donc le 16 juillet, il n'était pas possible d'établir de lien entre la disparition de Steve Maya Canisso et l'intervention policière. Ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu sur le terrain, mais en tout cas, le rapport dit dans l'exécution de l'opération policière, il n'y a pas eu de lien entre les deux événements. Le fait de recourir à l'IGA permet de rechercher la responsabilité du préfet, qui est responsable du maintien de l'ordre, de l'ordre public sur son territoire, et puis celle du directeur départemental de la sécurité publique, qui dépend directement du préfet. Donc, en d'autres termes, on va explorer un peu plus haut dans la chaîne de commandement pour voir s'il y a eu des ordres qui ont été mal passés.
En gros, ce serait la faute de la mairie qui a laissé s'organiser.
Et il y a ce passage, effectivement, qui est très étonnant, en réalité, parce qu'il est hors du champ de compétence de l'IGPN, qui concerne, dans les conclusions, la mairie de Nantes et qui pointe que la maire de Nantes a oublié de mettre des barriérages à cet endroit du quai a peut-être sous-estimé. C'est un petit peu ce que dit, c'est ce que dit d'ailleurs le rapport. Après, on verra ce qu'il en est. Mais je rebondis sur l'histoire du tutorat de Christophe Castaner. C'est intéressant parce que structurellement, il était compliqué pour le ministre de l'Intérieur de s'exprimer. C'était la première parole forte du gouvernement sur le fond de cette affaire. Et structurellement, il était compliqué pour lui de dire voilà, ce n'est pas la faute de la police, il n'y a aucun lien entre cette intervention et la mort, puisqu'on sait qu'il est mort maintenant, de ce jeune homme, puisque c'est le ministre de l'Intérieur et qu'il est. C'est le chef de la police. Donc c'est aussi normal.
Christophe Rouget, alors vous qui êtes policier, l'IGPN, est-ce qu'elle est un peu partiale, parce que ce sont des policiers qui jugent des policiers ? Je cite ce matin le député La France Insoumise, Éric Coquerel, qui dit ça n'est pas à la police d'enquêter sur la police.
Débat, il est récurrent, vous savez, mais je crois que l'IGPN a fait la preuve de toute son efficacité depuis longtemps. Malheureusement, l'IGPN n'a pas les possibilités d'enquête d'un juge. Donc aujourd'hui, nous avons une enquête qui a été brève dans le temps, et c'est une enquête administrative, donc on ne peut pas mettre une personne en garde à vue, on ne peut pas mettre des scellés, il y a tout un tas d'actes qu'on ne peut pas faire. Donc il faut savoir que...
Alors, qu'est-ce qu'ils enquêtent ? Comment ils font ? Ils se basent sur quoi ?
Ils entendent des personnes, c'est une enquête administrative qui n'a pas les mêmes possibilités qu'une enquête judiciaire. Là, et dans un temps très réduit, puisque là, vous avez une instruction judiciaire qui vient de commencer, elle va être très longue, avec des moyens d'investigation beaucoup plus puissants, qui vont permettre, j'espère, d'éclairer. Donc là, on a eu une première partie, quelques éléments concernant l'intervention de la police, et c'est pour cette raison que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ont saisi l'IGA pour avoir d'autres éléments complétés, plus ensuite l'enquête judiciaire. Comme tous les citoyens, comme tous les parents, nous aussi, on veut connaître toute la vérité.
C'est ce que j'allais vous dire. Comment est ressentie cette enquête, cette affaire à l'intérieur de la police ? Est-ce qu'on réagit en tant que parent en disant c'est quand même dramatique ? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, une fois de plus, on tape sur les policiers, une fois de plus, on nous accuse de tous les maux de la terre ?
Les deux, parce qu'on est parent et policier. Ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Et quand on rentre dans ce métier, c'est pour défendre les citoyens, leur apporter de l'assistance, connaître la vérité lorsqu'il se passe un drame, faire des enquêtes. Et là, ce qu'on veut, justement, c'est qu'il y ait une enquête. Or, qu'est-ce qu'on a ? On a une exploitation politicienne sur les réseaux sociaux de quelques gens qui veulent stigmatiser la police ou d'autres qui, avec une grande indécence, reprennent ce triste drame. Et moi, je pense d'abord aux parents qui ont perdu cet enfant. Et en tant que parent, moi, je me disais, quand j'ai vu la première fois ces images sur ce quai, j'ai dit, mais comment a-t-on pu autoriser une fête au bord de ce fleuve, à cet endroit, de nuit, sans barriérage ? Mais c'est impensable.
L'IGPN,
si vous êtes un particulier, que vous voulez faire un bal, une soirée festive, une manifestation, il va falloir demander des autorisations, mettre des systèmes de sécurité. Et là, on organise ça jusqu'à 4 heures du matin. Donc il faut faire une enquête et établir toutes les responsabilités.
Alors, il n'y avait qu'une partie seulement du quai Wilson où il y avait des barrières, mais pas effectivement, pas tout le long où se déroulait la soirée.
À Bordeaux, en 2011, 2012, 2013, il y a 7 individus qui tombent dans la Garonne. On croit même qu'il y a un serial killer qui tue des individus de la Garonne. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a des individus qui tombaient parce qu'ils avaient fait des soirées festives, ils avaient bu, et ils tombaient dans la Garonne, ils se noyaient. Il y a eu un électrochoc dans la ville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des barriérages, on a mis des bouées toutes les 50 mètres, on n'a plus autorisé les festivités au bord du fleuve, on a créé une brigade fluviale, et donc on a réalisé, et on a mis des caméras de surveillance. On a réalisé que c'était dangereux. Mais qu'est-ce qu'a fait la mairie de Nantes? Voilà, on peut se poser cette question en tant que parent.
Alors, même si, enfin, je ne vais pas me faire l'avocat de la maire de Nantes, mais elle dit, ça fait des années qu'il y a cette fête à ce même endroit sur ce quai Wilson, et il n'y a pas chaque année 10 à 14 jeunes qui se retrouvent à tomber dans la Loire.
Non, mais voilà. Si on revient aussi sur l'organisateur. L'organisateur, on sait très bien aujourd'hui, avec le rapport de GIPEN, que les policiers interviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent, c'est une patrouille normale, ce n'est pas du maintien de l'ordre. Ils arrivent, ils demandent au DJ, arrêtez les sons. Il y a 10 barres de son, ça fait un bruit quand même phénoménal. Ouais. Les 9 premiers
DJ. Ça gênait DJ, d'ailleurs dans ce coin de Nantes, ça ne gênait pas forcément.
Alors, vous savez, 10 barres de son comme ça, on l'entend à des kilomètres. Hein. Donc là, c'est 4h15 du matin, les policiers interviennent. D'ailleurs, les premiers DJ, quand ils interviennent les premiers DJ, ils sont applaudis, les policiers, parce qu'on leur a laissé un quart d'heure supplémentaire. On arrive au 10e DJ. Le 10e DJ dit « j'arrête le son ». Et en fait, quelques secondes plus tard, il remet le son. Et là, il excite un peu tout le monde. Et les gens qui sont là commencent à jeter des projectiles sur les policiers. Moi, je pose une question. Est-ce que si ce DJ avait arrêté la musique, il n'y aurait pas eu d'affaire? Quelle est sa responsabilité? Ça, on sait aujourd'hui en plus que ce DJ, il était alcoolisé. Quelle est sa responsabilité? Moi, je suis parent et j'ai quelqu'un qui est venu là une soirée. Bon, on a un DJ qui n'a pas respecté les règles et qui, du coup, à stigmatiser des gens qui étaient sur place pour agresser les policiers, et on se retrouve avec un incident. Il faut savoir pointer les responsabilités, il est bon.
Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 21 au 22 juin dernier? Un mois et demi après la disparition de Steve Maya Canisso, et alors que le corps du jeune homme a été retrouvé ce lundi, la question reste entière. Si le rapport de l'IGPN, on l'a dit, semble dédouaner la police, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la responsabilité des forces de l'ordre. Sujet de Julien Launay, Jean-Pascal Bublex avec Myriam Zéhar.
C'est ici, à proximité de ce quai, dans la Loire, à seulement 600 mètres du lieu où il a été vu la dernière fois, que le corps de Steve Maya Canisso a été retrouvé. Une navette fluviale a repéré sa dépouille, méconnaissable après plusieurs semaines dans l'eau. Un choc pour les soutiens du jeune homme de 24 ans réunis hier à Nantes, dans un rassemblement en son honneur, où la tristesse se mêle à la colère.
Un camarade a fait couler le sang sur la place pour que ce soit symbolique, pour alerter les gens.
C'est une responsabilité de l'État que de garder nos enfants en paix et en sécurité.
Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte pour tenter de répondre aux nombreuses zones d'ombre qui planent encore sur cette nuit de fête de la musique. Ce soir-là, une foule profite de plusieurs sound systems au bord de la Loire. Aux alentours de 4h30, la police souhaite interrompre la soirée. Les fêtards refusent, la situation dégénère. Les policiers font usage de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement et de tirs de LBD. Pour plusieurs témoins, cette intervention musclée a provoqué la chute de plusieurs personnes dans le fleuve. Y a-t-il eu un usage disproportionné de la force? Non, répond ce syndicaliste.
Malheureusement, des personnes hostiles à la police s'en sont pris à eux. Mes collègues ont été agressés, certains ont été violentés. Un collègue s'est fait arracher son casque qu'il avait à peine eu le temps de mettre pour recevoir des coups. Ils ont été encerclés par les fêtards. Et pour autant, l'intention première n'était pas de faire évacuer la zone.
Cette nuit-là, 14 personnes seraient tombées à l'eau, mais pas toutes au même moment. Alors à quelle heure Steve est-il tombé? Sa chute est-elle liée à l'intervention de la police? Hier, Édouard Philippe en personne, accompagné d'un ministre de l'Intérieur muet, dévoile les conclusions du rapport de l'IGPN, la police des polices.
Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, « il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso ». Ce rapport met en évidence des difficultés liées à l'intervention, consécutives à des jets de projectiles en direction des policiers, et menées dans un rapport de force défavorable qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes.
Mais pour l'avocate de la famille de Steve, qui s'est portée partie civile, ce rapport reste très incomplet.
Dans ce rapport de l'IGPN ne figure pas d'audition de témoins qui seraient tombés dans la Loire, par exemple. Or, ces personnes existent et je pense qu'elles ont beaucoup de choses à dire. ne figurent pas de témoignages de personnes qui ont été et qui s'estiment victimes des armes utilisées par la police. Pas d'expertise balistique non plus. Donc, si vous voulez, très peu d'éléments, des éléments essentiellement qui viennent au soutien d'une thèse de la police.
Dans ses conclusions, la police des polices pointe également la responsabilité de la mairie de Nantes.
Elle n'avait mandaté que 2 agents d'une société privée de sécurité afin d'empêcher la foule attirée par les sound systems de tomber dans le fleuve proche alors même qu'ils étaient censés placer ces systèmes le long du quai Wilson. Elle avait fait positionner des barriérages le long d'une partie seulement du quai Wilson alors que les sound systems ont été installés jusqu'au bout du quai, ce qui a généré un risque pour le public.
Des accusations qui scandalisent cet adjoint de la municipalité.
Il y a une volonté de déporter le problème de l'intervention policière vers la question des barrières qui auraient pu être positionnées près du fleuve. Mais est-ce que ce sont les barrières qui ont lancé 30 grenades lacrymogènes et des encerclements ? Est-ce que ce sont les barrières qui ont matraqué ? Est-ce que ce sont les barrières qui ont entraîné la chute de dizaines de jeunes dans la Loire ? Je ne pense pas.
Les proches de Steve Canisso réclament désormais justice. Outre l'information judiciaire ouverte, une enquête de l'inspection générale de l'administration a été ordonnée par Matignon. Les conclusions seront rendues dans un mois.
Alors, question téléspectateurs, nous avons le lieu précis où le corps de Steve a été retrouvé, mais sait-on à quel endroit est-il tombé et y avait-il des témoins, Nicolas Chapuis ?
Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce rapport de l'IGPN, c'est que finalement, on lui en demandait beaucoup et forcément, il y a une déception parce que ce rapport de l'IGPN, il n'est pas censé déterminer la façon dont Steve Maya Canisso est tombé dans la Loire. Il est censé déterminer les responsabilités de la police. C'est à l'enquête judiciaire de déterminer pourquoi et comment il est tombé dans la Loire.
Peut-être, si ça se trouve, tombé avant l'intervention de la police.
On ne le sait pas parce que justement, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin direct de la scène. On sait que son portable a borné environ une heure avant pour la dernière fois dans cette zone-là. On sait que l'un de ses amis l'a vu se reposer entre 200 systèmes un peu avant l'intervention des forces de police. Et ensuite, on ne sait rien. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le rapport de l'IGPN, il faut bien voir que son but, c'est un rapport qui est administratif et son but est de déterminer est-ce qu'il y a eu une faute ou non de la police. Et ce rapport-là, il dit qu'il n'y a pas de lien qui peut être établi puisqu'il n'y a pas de témoin entre l'intervention de la police et la chute de Steve Maya Canisso. Mais il va plus loin. Il dit que l'usage de la force sur ce quai était proportionné et justifié. Et c'est là que ce rapport, il pose question. Ce n'est pas tant sur le fait d'exonérer ou non les forces de l'ordre.
Finalement, il y a un débat.
Finalement, sur la chute de Steve Maya Canisso, ils disent ce qu'on sait déjà. On n'a pas de preuves, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, il y a une présomption d'innocence qui s'applique également aux policiers. En revanche, sur la nécessité d'utiliser un armement intermédiaire comme les gaz lacrymogènes, les lanceurs de balles de défense, les grenades de désencerclement à proximité de l'eau, le rapport dit, sans vraiment étayer ça, il le dit d'une formule qui est assez lapidaire, en tout cas dans la version que la presse a eue, qui est une synthèse de 10 pages, il dit de manière assez lapidaire, c'est justifié et proportionné. Ça, il va falloir quand même l'étayer. Il va falloir l'étayer de manière un peu plus fournie que ce qu'on a eu.
D'autant que Damien Delceni, le lendemain, on a le syndicat policier SGPFO qui dénonce une faute grave et qui se demande qui a donné cet ordre d'utiliser ces tirs de balles et ces grenades lacrymogènes sur des jeunes alcoolisés, on le disait, à proximité de la Loire alors qu'il n'y avait pas de barrière. On peut quand même s'interroger.
Oui, alors on peut s'interroger en préambule, je dirais s'interroger dans notre situation assis sur des tabourets ici, c'est assez simple. Il faut toujours replacer le maintien de l'ordre et ce genre d'opération dans un contexte particulier ce soir-là. Donc on peut faire plein de théories faciles ici, mais c'est un peu plus compliqué sur le terrain. Ça, c'est en préambule. Après, effectivement, il y a une question sur est-ce qu'au moment où les policiers arrivent...
Il ne faut pas se replier quand même. Il y a des adultes et des enfants.
Alors, le premier élément à comprendre, c'est que les policiers qui sont les primo-intervenants qui s'occupent de cette opération, ce n'est pas des policiers spécialisés en maintien de l'ordre. Ce n'est pas des CRS. C'est des policiers de BAC, d'unités d'intervention, mais qui ne sont pas ni équipés, ni formés au maintien de l'ordre. C'est des policiers qui font une patrouille et qui passent pour vérifier que les lits ont bien coupé la musique. Donc, ils n'ont pas l'habitude de faire du maintien de l'ordre. Donc, ils n'ont pas les réflexes qu'aurait sans doute eu un escadron de gendarmes mobiles ou un escadron de CRS s'ils étaient arrivés, qu'ils avaient effectivement vu que le terrain était étroit, qu'il y avait l'eau à côté. Peut-être que effectivement, ce serait replié, aurait attendu. Là, ils sont une quinzaine, donc ils ne sont pas nombreux. Ils sont très vite débordés par ce qui se passe. Et donc, la seule solution qu'ils trouvent, qui est une solution effectivement d'urgence, c'est on gaze et puis
on gaze pour figer. Il y avait une autre solution, c'est on se prend des projectiles et on se replie.
Bah, ce sera une des questions qui sera posée probablement par l'enquête judiciaire, c'est-à-dire que quand le commissaire qui était responsable in situ de cette opération-là, on va forcément lui demander à un moment donné, est-ce que c'était pour, selon vous, la bonne solution d'intervenir ?
Mais d'ailleurs, le rapport de l'IGPN émet une critique qui est voilée dans la façon dont il l'apporte, puisqu'il dit l'intervention était justifiée et proportionnée, mais dans ses 10 conclusions, il précise aussi que la volonté, la stratégie employée par le commissaire qui manifestement s'est focalisé sur le fait de faire arrêter la musique, puisque le commissaire sur le terrain semblait considérer que c'était la musique qui générait finalement l'excitation et qu'il fallait absolument faire cesser la musique. Et dans le rapport, l'IGPN dit que cette volonté de faire cesser à tout prix la musique provoque une montée des tensions et que c'est finalement à la fois l'arrivée des CRS et l'ordre qui arrive à la radio de faire cesser les gaz lacrymogènes qui provoque la retombée des tensions. Donc, dans le rapport de l'IGPN, il y a quand même une critique voilée de la stratégie décidée sur le terrain du commissaire. Mais mon collègue a raison, et il faudra que l'enquête le détermine ensuite plus avant et que ce commissaire soit interrogé.
Le préfet, par ailleurs, insiste sur l'état d'ébriété. Dans quel état est-on à 4 heures du matin ? Alors, il dit il y a l'alcool, il y a de la drogue, il y a la musique très fort. On a des jeunes qui ne sont.
L'obscurité aussi.
Il y a l'obscurité, voilà. On a des jeunes qui sont. Qui arrive à peine. Enfin, dans quel état est-on ? On n'est plus très maître de soi dans ces cas-là, 4 heures du matin ?
C'est compliqué. On sait très bien que l'absorption de drogues, de médicaments, favorise les chutes. Et je vous ai cité tout à l'heure la situation de Bordeaux, où des gens, justement, qui étaient alcoolisés, tombaient dans le fleuve.
Alors, parce que c'était... Il paraît que Steve ne prenait pas de drogue. Hein.
C'est pour ça qu'à ce stade, savoir si l'intervention policière est justifiée ou non, c'est important. Et il faudra apporter toutes les responsabilités, s'il y a eu des erreurs ou non. Mais c'est facile de le faire ici, vu le contexte, avec tous les collègues qui étaient blessés sur place et tout. Mais l'important aujourd'hui,
c'est d'avoir... Il y a eu des collègues blessés, des policiers blessés.
Oui, des policiers ont été blessés parce qu'ils ont reçu des projectiles dessus. Et ce n'est qu'une riposte qu'ils ont
fait. Alors, c'est quoi les projectiles ? C'est les canettes de bière ?
Voilà, c'est ce qu'on a des pierres, des canettes de pierre qui ont été jetées. Il y a 4 policiers qui ont été blessés. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est le lien de causalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué la mort de Steve ? Aujourd'hui, on ne sait rien. Personne n'est capable de dire à quelle heure il est mort, à quel endroit il est mort, s'il a été poussé. On n'a pas l'autopsie qui va permettre de déterminer pour éclairer la situation, s'il avait consommé de l'alcool, des toxiques. Donc on a toutes ces zones d'ombre. Donc aujourd'hui, on parle d'une intervention policière, toutes les interventions policières sont à risque, et on parle de décès de quelqu'un, mais on ne sait pas s'il y a de lien entre les deux. Alors, on a présenté, certains ont présenté immédiatement ça en disant « c'est un lien ».
L'opposition dit 10 à 14 jeunes ne tombent pas tout seuls à l'eau, comme par hasard, au moment où la police...
Non, mais sait que dans le rapport, c'est indiqué qu'il y a 3... Ouais. Au moins 3 personnes qui sont tombées avant l'intervention de la police.
Il y en a 10 qui sont tombées
pendant. Parce qu'on savait dès le lendemain.
Mais heureusement pour ces 3 personnes, elles savaient nager. C'est la différence aussi. Mais est-ce qu'il est tombé à ce moment-là ? Tout ça, on ne le sait pas. Donc, il va falloir le déterminer. C'est l'enquête judiciaire qui va le permettre.
Oui, il y a quelques précautions justement dans ce rapport pour bien détacher la disparition de Steve de l'intervention policière. On dit par exemple que l'IGPN écrit que Steve a disparu vers 4h du matin. L'intervention policière a eu lieu entre 4h20 et 4h52. Il y a eu des personnes qui ont disparu et puis qui ont été retrouvées après. C'est ce qu'écrit le rapport. En tout cas, c'est le cas pour l'une d'entre elles. Donc, il y a beaucoup de précautions. Ce qui est simplement curieux, c'est que le gouvernement a décidé de communiquer ce rapport quelques heures après l'authentification du corps de ce jeune homme. Donc, immanquablement, ça crée un lien dans l'esprit des gens entre la disparition du jeune homme et sa mort noyée, le fait qu'on le retrouve dans le fleuve, et l'intervention de police. Donc, il y a un lien qui se crée. Par ailleurs, quelques éléments un peu curieux se trouvent aussi dans le rapport. Par exemple, comme l'a dit Nicolas Chapuis, le fait que l'intervention policière soit jugée proportionnée, justifiée. Et puis, on a quand même un bémol sur une action d'un policier particulier qui assène des coups de matraque, on l'a vu dans la vidéo.
Il y a une enquête en cours.
Enquête en cours sur ce policier, mais ouais. L'IGPN dit qu'il n'a pas été identifié. Ouais. Donc l'enquête en cours, sans qu'il soit identifié, c'est compliqué. Et puis, l'IGPN est obligé de reconnaître qu'il existe cet acte-là, puisqu'il y a une vidéo qui a circulé.
Christophe Rouget, on sait très bien que la police a lancé des grenades lacrymogènes et des tirs de flashball, enfin de LBD, parce qu'elle s'est reçue des projectiles. Est-ce que la société s'est durcie et désormais, quand vous disiez des policiers lambda viennent parce qu'il y a un peu trop de bruit et ils disent « besta sono », ça dégénère et on s'en prend physiquement aux policiers. Est-ce que la société s'est durcie et donc forcément maintenant, de plus en plus, on va au contact et, dit-on, ça peut parfois dégénérer avec ce genre de drame.
ça arrive depuis longtemps, malheureusement, dans toutes les fêtes de la musique, dans toutes les grandes villes, vous terminez en fin de nuit avec des problèmes dehors avec la police chaque année.
On se prend des projectiles régulièrement.
Bien sûr, parce que vous avez des individus qui sont alcoolisés, qui ont des bouteilles en verre, qui vous les lancent dessus. Donc, toutes les fins de nuit en France, lorsqu'il y a la fête de la musique, il y a dehors avec la police. Vous pouvez regarder tous les journaux locaux et ça va être dit. C'est un problème qui est récurrent. Mais là, on voit bien que, justement, les policiers, quand on voit vos images d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas de charge. On voit qu'ils sont derrière des cailloux, qu'ils reçoivent des projectiles et que donc, en riposte, ils envoient du gaz lacrymogène. Donc, il va falloir déterminer la réaction qui a été faite par les policiers. Mais il va surtout falloir déterminer tout le contexte et avoir tous les éléments pour avoir le fil de cette soirée. Parce que pour l'instant, on n'a pas le fil de cette soirée.
Et combien de temps ça va prendre, ça ?
Ça, c'est une instruction judiciaire, vous savez.
En ayant l'esprit que peut-être on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé.
Mais l'alternative et la question qui se pose, c'est maintenant, quand on est policier et qu'on se prend des projectiles et des canettes de bière, parce que les personnes qui sont alcoolisées et qu'elles sont prêtes, il ne faudrait pas réagir, quoi.
La question, c'est peut-être ce que vont se poser les policiers. Est-ce qu'on ne devrait plus intervenir ? Parce que tout le monde dit on les a embêtés, ils faisaient la fête,
oui,
ils faisaient tranquille.
Ils étaient loin de.
Mais alors, il fallait
que. Il n'y avait pas forcément grand monde.
D'accord, alors il fallait que la mairie dise que les gens pouvaient faire la fête et la préfecture jusqu'à 8 h du matin. C'est eux qui ont pris l'arrêté en disant ça s'arrête à 4 h du matin. Ce n'est pas la police. La police vient parce qu'on a dit à 4 h du matin, il faut arrêter parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être gênés dans le quartier. Donc ça suffit, vous avez fait la fête jusqu'à 4 h du matin.
Preuve un peu de souplesse, de tolérance.
C'est ce qu'ont fait les policiers. Ils sont venus d'abord. Au début de soirée, en disant attention, il y a une tolérance, c'était déjà une tolérance jusqu'à 4 h du matin. Ils l'ont dit à tout le monde en début de soirée. Et ils sont revenus en fin de soirée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 9 DJ sur 10 qui ont arrêté la musique. Donc est-ce qu'on doit laisser faire et gêner les autres citoyens ou est-ce qu'on doit ne plus intervenir? C'est la question que peuvent se poser des policiers parce que, comme ils sont stigmatisés systématiquement, il va falloir savoir quelles sont les règles. Et là, en l'occurrence, c'est la mairie qui avait déterminé et la préfecture l'heure de fin.
Mais vos collègues, la SGPFO, là, ce syndicat policier qui parle d'un ordre aberrant.
Bon. Écoutez, il y a une déclaration qui a été faite. Nos policiers, tous les ensembles
de. Avec l'ancien commissaire, ne chargez pas, lui. Enfin,
oui, il faut regarder le contexte local, c'est syndical, sans doute. L'ensemble des autres syndicats sont sur la même position. Les policiers ont riposté à une agression.
Ce qui est assez particulier dans cette affaire, et c'est d'ailleurs ce qui, du côté de la presse, au tout début, a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, on a vu une grande solidarité des forces de l'ordre qui, de manière générale, se sont défendues, ont défendu leurs actions avec une certaine unanimité. Et là, c'était quand même la première intervention depuis 6 mois où, en on, un syndicat s'est exprimé pour dire que l'ordre était aberrant, et en off, énormément de policiers qu'on a pu avoir au téléphone étaient quand même extrêmement réservés en disant « je n'étais pas sur place, mais nos règles générales sont que quand on est au bord de l'eau, sur un pont, sur un quai, on n'intervient pas avec ces moyens-là. Et donc, il faudra voir l'enquête, etc. » Mais au sein même de la police, dès le début, il y avait quand même un malaise sur les conditions d'intervention. Et c'est un malaise qui a été exprimé de manière assez forte en interne. Et maintenant, il faudra que l'enquête détermine est-ce que c'était justifié ou non. Mais quand même, le fait qu'il y ait un peu une désolidarisation d'un certain nombre de policiers, c'est un peu ce qui, au début de l'affaire, a mis quand même la puce à l'oreille à un certain nombre de journalistes qui se sont dit il y a peut-être une histoire à creuser, en l'occurrence.
Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis hier, c'est Édouard Philippe qui est en première ligne pour tenter de répondre aux polémiques, preuve que le dossier est sensible et hautement politique. Au cœur de la tempête, un ministre, donc Christophe Castaner, déjà fragilisé par les crises de ces derniers mois. Sujet de Mélanie Nunez, Laura Rado et David Lemarchand.
Face à la polémique, un homme, Édouard Philippe, opération déminage pour le Premier ministre. Derrière lui, le locataire de la place Beauvau, fragilisé. Christophe Castaner, en retrait, l'autorité du ministre de l'Intérieur remise en question. La mort de Steve Canisso, un dossier sensible, alors Édouard Philippe l'assure, Christophe Castaner a toute sa confiance.
Je peux vous dire que le Premier ministre que je suis apporte évidemment tout son soutien à Christophe Castaner, que j'ai pleinement confiance en lui et que nous sommes mobilisés à la tâche pour n'accuser personne et ne dédouaner personne.
Ce qui compte, c'est aujourd'hui de faire, comme l'a rappelé le Premier ministre, toute la transparence. Nous portons cette exigence de transparence et de vérité. C'est d'abord une demande de la famille, elle est légitime, mais c'est une demande des Français. Et donc le gouvernement est totalement engagé, le ministère de l'Intérieur sous l'autorité du Premier ministre, pour faire toute la transparence et répondre à toutes les questions.
Le rapport de l'IGPN, la police des polices, n'établit pas de lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la mort de Steve. Un rapport qui ne convainc pas tout le monde, notamment dans la classe politique. Ce matin, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, monte au créneau sur sa page Facebook. Il estime qu'il n'y aura pas de justice rendue. Pour Alexis Corbière, député France Insoumise, le ministre de l'Intérieur est discrédité et fait preuve, dit-il, de faiblesse.
On a l'impression que Christophe Castaner ne peut plus rien dire à ses policiers. Il n'a plus la poigne pour, à la fois, bien sûr, être en soutien aux forces de l'ordre, car il faut soutenir nos forces de l'ordre, mais être en capacité aussi, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la loi, lorsqu'il y a des erreurs qui ont été faites, de pouvoir éventuellement sanctionner. Donc ça, on sent bien qu'il ne maîtrise plus. On sent qu'il n'est plus en capacité peu de faire entendre une voix. Donc sa responsabilité, déjà, elle est là. Donc quelle est sa doctrine? On a l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, si ce n'est après avoir dit aux forces de l'ordre « foncez, foncez, voilà la consigne et je vous couvre ». Et puis on aimerait aussi que, notamment après que le drame de Steve ait eu lieu, qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Quel bilan il tient? Circuler, il n'y a rien à voir?
Un ministre déjà sous le feu des critiques. Depuis des mois, des images qui choquent l'opinion. Chaque samedi, des gilets jaunes face aux forces de l'ordre. Et un bilan très lourd. 2450 blessés recensés, côté manifestants, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. À chaque fois, pour seule réponse de la part de Christophe Castaner, la fermeté.
On va pas bouger parce que je fais toute confiance aux forces de sécurité qui sont là. Et c'est pas parce que quelques dizaines d'assassins qui s'en prennent avec des armes de ce type-là, qui au fond sont faites pour tuer, c'est pas parce que quelques dizaines de personnes viennent nous menacer que nous partirons.
Autre situation et même réponse. Le 28 juin dernier, un sitting pacifique, des militants écologistes bloquent le pont de Sully, à Paris.
Messieurs, dames, je vous demande de quitter la chaussée et de regagner le trottoir immédiatement.
Ils sont rapidement aspergés de gaz lacrymogène par des CRS, à seulement quelques centimètres de leur visage. Pendant 25 minutes, 10 bombes, 5 litres de gaz sont utilisés.
On bouge !
Arrêtez, j'arrive pas à respirer !
Eh bien, bougez !
Opération de police parfaitement légitime, estime Christophe Castaner, même si une enquête a été confiée à l'IGPN. Ces situations soulèvent une question. Y a-t-il un problème Castaner ? Depuis plusieurs mois, l'opposition politique s'interroge sur sa stratégie en matière de maintien de l'ordre.
Pendant longtemps, nous avons été un exemple pour le monde entier. Nous étions les champions de maintien de l'ordre sans casse, sans que nous ayons à déplorer à chaque fois des blessés, des morts, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, je demande effectivement à ce que la responsabilité soit pointée et que derrière, il y ait une évolution, qu'on ne puisse plus à chaque fois considérer que le maintien de l'ordre suppose l'utilisation de n'importe quel moyen.
Incompréhension, indignation. Des élus réclament aujourd'hui la démission du locataire de la place Beauvau. Des pétitions ont également été lancées.
Alors, question téléspectateur. Édouard Philippe soutient Christophe Castaner, mais ne soutenait-il pas aussi François de Rugy, Ivan Trippenbach? Ça a duré une semaine, son soutien.
Oui, ça a duré une semaine. Et ce qui est certain, c'est que pour François de Rugy, Matignon ne l'a pas retenu quand il a souhaité démissionner. Ouais. Là, l'affaire est quand même de nature différente. Il s'agit d'une affaire qui concerne un ministère régalien. On parle quand même d'un jeune homme qui est mort. Donc, il y a une dimension presque d'affaire d'État, d'une certaine manière, qui est en tout cas potentiellement là. Ce qui est très frappant, en tout cas, c'est... Effectivement, Édouard Philippe qui est là en soutien affiché de Christophe Castaner, Christophe Castaner qui est derrière lui de manière silencieuse. Cette image, on l'a déjà vue au lendemain d'actes particulièrement violents de gilets jaunes. Ce n'est pas nouveau, il avait également fait ça, Édouard Philippe, pour Gérard Collomb, au lendemain du 1er mai 2018, qui avait été très violent aussi. Donc le fait que Édouard Philippe s'affiche avec son ministre de l'Intérieur, c'est un signe fort de soutien. Cela montre aussi que l'État est tenu.
Il va y avoir une cornérisation, genre je te reprends en main.
Bien sûr que si, ça l'est aussi. Il y a une plaisanterie qui circule place Beauvau, qui ne ferait pas rire Christophe Castaner, c'est que Édouard Philippe assure pour la deuxième fois l'intérim du ministère. Donc bien sûr que ça fait partie de l'équation.
Sauf que pour le gouvernement, j'imagine avoir une deuxième démission au cœur de l'été après la démission de François de Rugy à voir Christophe Castaner.
C'est une option qui est exclue pour le moment.
Christophe Rouget, est-ce que... Alors je ne sais pas si vous avez le droit de parler librement de ça, mais quelle est l'image de de Christophe Castaner au sein de la police, de votre ministre de tutelle, donc.
Je crois que Christophe Castaner a soutenu les policiers pendant la crise des Gilets jaunes, avec une grande fermeté par rapport aux manifestants. Et là, aujourd'hui, on voit l'opposition qui demande évidemment la démission. On a déjà eu 10 ministres en 10 ans de l'Intérieur. Et toutes les oppositions qui succèdent, à chaque fait divers, demandent la démission du ministère de l'Intérieur. C'est récurrent dans notre monde politique. Donc voilà, non, je crois qu'il a une bonne image, mais là, les policiers sont en attente, les officiers, les commissaires, d'une vraie reconnaissance, sont en attente aussi de réformes nécessaires, parce qu'on a des ministres, justement, qui se sont succédés pendant 10 ans, mais qui n'ont pas transformé ce ministère. On avait fait venir la gendarmerie dans ce ministère il y a 10 ans, mais depuis, on n'a plus eu de réforme de fond, et il est nécessaire de le moderniser. Et nous, ce qu'on attend, c'est, on va voir à la rentrée, des états généraux, une loi de programmation, et vraiment quelque chose qui s'inscrive dans la durée.
Nicolas Chapuis, on disait longtemps que le ministère de l'Intérieur, c'était un lieu où on pouvait se faire une bonne popularité, on se souvient de Nicolas Sarkozy. Ça devient un ministère plus compliqué vu la violence qui irrigue notre société ?
Ça a toujours été un ministère compliqué, c'est le ministère de l'urgence. Dès qu'il se passe quelque chose dans le pays, comme l'a dit Christophe Rouget, dès qu'il y a un fait divers, il y a toujours quelqu'un pour demander la démission du ministre. Je pense que là, en l'occurrence, le Premier ministre ne peut pas démissionner son ministre de l'Intérieur puisque ça serait reconnaître qu'il y a une faute. Pour l'instant, la faute, elle n'est pas prouvée, elle n'est pas avérée. Encore une fois, on ne sait pas dans quelles circonstances est décédé Steve Maya Canisso. Donc si on dit que le ministre de l'Intérieur doit partir, c'est qu'on en conclut qu'il y a une faute de la police et que donc il faut que des têtes tombent. Ça, ils ne peuvent clairement pas le faire au cœur de l'été. Et puis, il faut faire attention avec les fusibles. Par définition, il n'y en a pas 50. Donc quand il y a déjà plusieurs ministres qui sont tombés. Voilà, aujourd'hui on peut pas se permettre du côté du gouvernement de perdre Christophe Castaner, qui, Christophe Rouget a raison, a une image plutôt positive auprès des policiers. Son soutien pendant la période des Gilets jaunes, qui a été sans faille, on peut le dire, voilà, qui a été parfois mal vécu par les manifestants, puisqu'il n'a pas du tout reconnu des violences policières, mais du point de vue des policiers, ça a été apprécié, ce soutien. Et donc il a une image qui est plutôt positive, même s'il y a certains événements, comme la Pitié-Salpêtrière, où il a vu des déclarations un peu à la porte-pièce qui ont été un peu...
Il avait affirmé que des gilets jaunes avaient attaqué des malades dans un hôpital, alors qu'en fait, ils cherchaient simplement à se réfugier.
Ça n'avait pas été très bien vécu du côté des forces de l'ordre. Ouais. On s'était dit que la communication l'emportait un peu sur la rigueur. Et il y a une forte demande de réforme. Mais voilà, il a cette image quand même plutôt positive auprès de l'institution policière. Et ça, pour un gouvernement, c'est quand même précieux d'avoir quelqu'un comme ça à Beauvau.
Yvan Trippenbach, on s'aperçoit que c'est l'opposition de gauche qui critique cette gestion un peu musclée qu'aurait Christophe Castaner. Et absolument pas l'opposition de droite. Ça reste un marqueur politique, ça. La droite, elle est quand même systématiquement du côté de l'ordre. Et la
oui.
France...
Oui, ça reste un marqueur politique, effectivement. Mais regardez, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, là, on avait Marine Le Pen qui critiquait ouvertement Castaner aussi et qui appelait à sa démission parce qu'elle défendait plutôt les Gilets jaunes, la liberté de manifester, etc. D'accord. Donc, voilà, ça peut... éventuellement bouger. Mais tant qu'on n'a pas le résultat des enquêtes en cours, c'est compliqué pour la droite, de toute façon, bien sûr, de tomber sur la police. Après, un scénario possible concernant Christophe Castaner, c'est que on verra ce qui se passe à la rentrée. Les oppositions peuvent se ressaisir du sujet à l'occasion de la publication des conclusions de l'IGA, le 4 septembre, donc en pleine rentrée politique et parlementaire. Là, ça peut encore fragiliser le ministre. Et puis si les conclusions tendent à mettre la faute, à pointer une responsabilité du préfet, ça ferait le deuxième préfet qui serait en difficulté ou qui sauterait à cause de Christophe Castaner. Après le préfet de police au mois de mars, ça commence à faire beaucoup. À Paris, le préfet de police de Paris, le préfet de Lyon, c'était sous Gérard Collomb.
Damien Delceni, dites-moi si je me trompe, mais là, il y a donc il y a des violences, etc. Mais on sort quand même d'une année où il y a eu les Gilets jaunes. Avant, il y avait le barrage de Sivens, il y a eu la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et à chaque fois, il y a des violences. On a l'impression que la société se durcit. Et des deux côtés, et d'ailleurs les Gilets jaunes disent, mais nous on réagit à la violence des policiers, on a l'impression que des deux côtés, il y a plus de violence et que c'est un moyen même qui commence à être légitimé.
C'est-à-dire que tout le monde a monté le curseur, parce que dans ces cas-là, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire des manifestants plus violents, ça donne des policiers qui réagissent plus violemment, et puis comme ça on monte gentiment l'échelle. Et effectivement, depuis quelques mois en France, il y a une tension qui s'installe, quasi permanente, c'est-à-dire que chaque événement, y compris un événement festif, est soumis à risque et est soumis à incident, à la suite. Et finalement, en fait, il y a le plus grand risque là-dedans et qu'on voit un peu dans cette affaire-là, c'est cette espèce de fracture encore qui s'agrandit entre une partie de la population et sa police. C'est-à-dire que chacun est en suspect aux yeux de l'autre. C'est-à-dire que...
Les Gilets jaunes disent on est violent parce que la police est violente.
Oui, et puis là, typiquement, le début de l'intervention sur l'affaire de Nantes, c'est... à la base, c'est quand même juste des policiers qui viennent couper le son de la musique. C'est pas... ouais. Voilà, il ne s'agit pas de charger des manifestants, il s'agit juste de venir couper. Et immédiatement, on bascule dans les images qu'on a vues tout à l'heure. Et immédiatement aussi, la police réagit de manière extrêmement spectaculaire avec des gaz lacrymogènes, avec des LBD. C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, en deux minutes... Ouais. On peut basculer dans l'ultra-violence.
Non, mais les images, on les a revues sur le pont de Sully, là, avec la froideur avec laquelle ces policiers déploient des gaz lacrymogènes sur les manifestants.
Ah, mais en termes d'image, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, en plus, c'est catastrophique.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi. On est dans une société de l'image aujourd'hui. Tout est filmé ou tout se retrouve sur les réseaux
sociaux. Ça, c'est un autre problème qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. C'est que maintenant, chacun filme avec son téléphone portable. Les vidéos qui circulent sont parfois montées, donc on ne comprend pas forcément bien l'enchaînement des choses. Évidemment, ces images du pont de Sully, elles sont désastreuses. En plus, à deux égards, c'est que d'abord, effectivement, quand on voit ce policier qui a l'impression qu'il jongle avec sa bouteille avant de la remettre dans sa ceinture. Et en plus, ce n'est pas très efficace, manifestement, puisque bon, il pleure beaucoup, mais enfin, il ne bouge pas. Donc c'est doublement, c'est nul sur toute la ligne en termes de communication, ça c'est sûr. Oui.
Christophe Rouget, on a l'impression que c'est vraiment « je t'aime, moi non plus ». Il y a une police adulée dans les opérations de lutte contre le terrorisme et quand même très critiquée, notamment là, avec cette histoire des Gilets jaunes. Vous avez passé une année, me semble-t-il, j'en sais rien, mais difficile, non ?
On a passé une année difficile et c'était difficile, c'est difficile pour les policiers. On a une année très difficile.
Sollicité et critiquée.
Sollicité, critiqué, avec beaucoup de suicides, 45 suicides depuis le début de l'année.
C'est lié, ça, tout ce qu'on dit.
Tout ce contexte, il est compliqué, parce qu'on est dans une société d'image, et on est dans un syndrome encore gilet jaune, parce que vous voyez, on rapproche de suite l'histoire du quai à Nantes avec les gilets jaunes, alors que ça n'a aucun rapport, parce que ce n'est pas du tout de maintien d'ordre. Mais de facto, dans les débats, on y revient. Et je crois surtout, ce qui nous fatigue, c'est qu'on a eu une exploitation politique très forte des réseaux sociaux d'extrême gauche, on voit bien avec les Black Blocs, tout ça, qui sont, et ça a marché leur système, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à stigmatiser la police pour faire monter les violences avec des groupes comme les Black Blocs et tout ça, pour dire ben, tout est de la faute de la police. Et donc on est encore dans ce schéma-là, mais heureusement, quand on regarde les études d'opinion, les Français nous soutiennent majoritairement, très majoritairement, mais effectivement, on a une fracture, je crois que c'est la fracture un peu post-gilet jaune, qui, une partie de la population ne nous aime pas et travaille activement à dégrader notre image.
Vous voulez dire qu'il y a des courants d'extrême gauche comme les Black Blocs qui infiltrent différents mouvements et avec pour objectif de s'en prendre à la police, que ce soit les gilets jaunes, les zones à défendre, etc.
On a très bien vu à la fin du mouvement, qu'il y avait une fusion, une confusion entre ces mouvements d'extrême gauche, ces Black Blocs, ces gilets jaunes.
Voir une manifestation syndicale.
Aussi des effets de mimétisme et tout ça, on est bien loin des manifestations syndicales il y a quelques années.
Alors, c'est la hantise de tout ministre de l'Intérieur, l'opération de police qui tourne mal. Depuis les années 60, plusieurs drames ont marqué l'opinion publique, des traumatismes successifs qui ont profondément modifié les pratiques en matière de maintien de l'ordre. Sujet de Walid Berissoul et Barbara Steck.
Mai 1968, la révolte gronde dans la capitale. La police se trouve face à une situation proche de l'insurrection. Le 29 mai, la ville s'embrase.
À Paris, ce fut une nuit de fureur. Et le quartier latin, jusqu'à l'aube, allait être secoué de violence telle qu'on n'en avait jamais vu.
Cette nuit-là, pourtant, aucun mort dans les rues de la capitale. Le même jour, le préfet de police, Maurice Griveaux, écrit à ses hommes pour les appeler à la retenue. Fini les répressions sanglantes comme celles du début des années 60.
Nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux. Et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière.
Le maintien de l'ordre à la française se transforme.
À partir de 68, la doctrine de maintien de l'ordre, elle repose sur un certain nombre d'éléments. Ne pas frapper, mais mettre à distance. Ne pas employer la matraque, mais employer le gaz ou le canon à eau, les camions-pompes, pour agresser les foules en agressant leur sensibilité. Vous voyez, l'eau, notamment en hiver, ça refroidit. Et les gaz, ça fait pleurer. La matraque, évidemment, l'arme à feu, ça fait mal.
Mais moins de 20 ans plus tard, c'est sous les coups de ces matraques-là qu'un jeune étudiant perd la vie.
Malik Houssekine, étudiant à Dauphine, est né à Versailles, va trouver la mort, malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer.
Un visage, un drame qui traumatise le pays et qui met le pouvoir politique sous pression. Dans la foulée, un ministre démissionne et les bataillons de voltigeurs de la police sont immédiatement dissous par le gouvernement.
La mort de Malik Houssekine, ça introduit une peur du côté des responsables politiques, la peur de voir un jeune homme allongé en pleine rue après une charge policière. Ça, c'est, si vous voulez, l'angoisse des politiques.
Alors, dans les années qui suivent, les techniques évoluent, tout comme les équipements des CRS et des gendarmes mobiles. Ici, à l'entraînement, ils utilisent des armes longue portée comme les lanceurs de grenades offensives. Une arme mise en cause dans la mort d'un autre manifestant en 2014 sur le barrage de Sivens. Rémi Fraisse, 21 ans, hante à son tour les autorités.
Parce que cette munition a tué un jeune garçon de 21 ans, que cela ne doit plus jamais se produire, j'ai décidé d'interdire l'utilisation de ces grenades dans les opérations de maintien de l'ordre.
Aujourd'hui, une autre arme fait polémique. Son nom, le LBD, lanceur de balles de défense. Ces derniers mois, ce pistolet qui a remplacé les flashballs a fait de nombreux blessés dans les rangs des gilets jaunes, comme ce manifestant à Bordeaux, touché à l'œil. Une arme dite de force intermédiaire jugée dangereuse par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui réclame son interdiction.
Il y a dans l'utilisation de ces affis une dangerosité, et nous l'avons vu parce que nous avons des dizaines de cas depuis des années, ça ne remonte pas à quelques semaines.
Cette année, les nombreux affrontements entre la police et les gilets jaunes ont montré les limites d'un modèle pour ce syndicaliste.
L'époque des maintiens de l'ordre, on va dire traditionnelle, avec des grands cortèges qui opposaient les policiers sur des grandes avenues, etc. On voit que c'est révolu et que l'adaptation fait qu'on on s'oblige à être plus mobile, à aller plus au choc pour percuter les noyaux durs d'ultra, comme on a pu le voir.
Le retour annoncé d'un maintien de l'ordre plus au contact, avec toujours cette crainte, celle d'un acte aux conséquences irréversibles.
Alors, question téléspectateur, la police n'est-elle pas devenue trop répressive et moins protectrice ?
Voilà, j'appuie. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu cette année, avec le mouvement des Gilets jaunes, mon collègue l'expliquait tout à l'heure, une montée en tension. Ensuite, dire de la poule et de l'œuf qui est le responsable, c'est quand même compliqué.
Dans les enquêtes, vous voyez qu'on s'identifiait pas mal aux Gilets jaunes par moment. Hein.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une grande violence dans le mouvement des Gilets jaunes et il y a eu des cas de violence policière qui sont avérés. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, la police, elle est finalement à la croisée des chemins. Elle a annoncé une grande réflexion sur la question du maintien de l'ordre et il faut que cette réflexion, elle ait vraiment lieu. Elle doit aboutir en septembre. Voilà, un texte qui doit un peu redéfinir la doctrine ou en tout cas remettre à plat un certain nombre de choses. S'ils se contentent de faire juste quelques rendez-vous et faire un peu un texte sans vraie réflexion poussée, ça sera très décevant pour tout le monde. Je pense qu'il faut que la police française sorte un peu de ce préconçu qu'elle a depuis longtemps et qui a été vrai peut-être à une certaine époque, qu'on avait le meilleur maintien de l'ordre du monde. On ne sait pas vraiment si ça a été vrai au final. Mais voilà, aujourd'hui, clairement, il y a des questions qui se posent, il y a des choses qui se passent à l'étranger qu'il faut peut-être aller voir, qu'il faut peut-être observer. Il y a une utilisation...
Comme par exemple
Par exemple, en Allemagne, où il y a des techniques qui sont différentes, des techniques de désescalade avec les manifestants qui peuvent être étudiées. Il y a la question de l'armement intermédiaire qui n'est pas utilisé de la même façon par nos voisins et donc il faut peut-être se poser la question.
L'armement est un peu trop lourd.
Il faut se poser la question. En tout cas, il faut mettre tout sur la table aujourd'hui. Et s'il n'y a pas une réflexion en profondeur, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'amélioration dans les mois qui viennent. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une cristallisation autour des techniques de maintien de l'ordre de la police qui n'ont jamais été autant commentées que cette année, que depuis 6 mois.
Mais Damien Delceni, c'est vrai qu'on a vu tous ces gilets jaunes éborgnés par les tirs de LBD. Alors en même temps, on dit oui, mais alors si on a des armes, elles seront totalement inefficaces si jamais on... Où placer le curseur entre l'efficacité et la non-dangerosité ?
Ça a été la question qu'on s'est posée tous pendant des mois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu deux phases, en fait. Il y a eu la phase, et c'est beaucoup en termes d'image aussi et de communication que ça passe, hein. Il y a eu cette phase de départ avec les Champs-Élysées retournées, saccagées, avec des policiers, pas les bras croisés, mais qui en tout cas avaient pour consigne de ne pas bouger. Tout le monde leur est tombé dessus le lendemain en disant bah, qu'est-ce que c'est que ce maintien de l'ordre où en gros on laisse piller des magasins, on laisse les gens rentrer dans l'Arc de Triomphe, tout casser et personne ne bouge. Et on s'est retourné du coup pour dire bon, bah, maintenant il faut aller au contact, il faut aller attraper les gens, il faut faire du corps à corps. Ce n'est pas le même maintien de l'ordre, ce n'est pas les mêmes conséquences parce qu'il faut accepter après, il faut accepter les images d'interpellation qui sont forcément beaucoup plus violentes que lorsqu'on reste derrière sa barrière et qu'on laisse ravager une rue parce que, après tout, des voitures brûlées, c'est toujours moins grave que quelqu'un étendu par terre. Donc cette question-là, elle n'est pas véritablement tranchée. Mais je pense quand même que la population, enfin, les manifestations et les manifestants ont changé, quoi qu'on dise, depuis quelques mois. Alors on l'a vu évidemment beaucoup cette année, mais c'est surtout ça qui va faire changer le maintien de l'ordre en France. C'est-à-dire que je pense que le public n'est plus le même.
C'est-à-dire alors
bah déjà, les Gilets jaunes, c'était déjà un mouvement qui n'était pas du tout géré. C'est-à-dire que pendant des années, on avait des manifestations avec des syndicats, des services d'ordre de syndicats en interne qui géraient un petit peu les cortèges, dans lequel on pouvait déjà avoir une espèce de sécurité et un maintien de l'ordre propre au syndicat. Les Gilets jaunes, c'était chacun s'auto-gérait, on faisait un peu ce qu'on voulait, etc. Donc ça, c'est pareil, il n'y avait pas d'interlocuteur pour organiser les manifestations, il y avait des manifestations qui se déroulaient dans des endroits interdits, c'était pas grave. Donc tout ça est à repenser, mais je pense qu'effectivement, il faut d'abord repasser à l'expertise tout ce qui a été fait cette année. Mais voilà, ça va être long. Et je ne pense pas que la réponse, ça sera de toute façon satisfaisante.
Est-ce qu'il y a un phénomène de zadisme aussi qui se développe? C'est-à-dire des zones un petit peu comme un village gaulois retranché, où la police n'est plus la bienvenue?
Oui, clairement, il y a des zones de non-droit. Il y a des livres qui ont été créés à ce sujet. Il y a Bure, il y a eu Nantes, il y a eu Sivens, il y a tout un tas de lieux comme ça. Mais on retrouve aussi toutes ces personnes, parce que c'est devenu un petit peu des professionnels, c'est ça la différence de la contestation. On a des gens qui viennent même de l'étranger, qui viennent, qui sont organisés par des réseaux sociaux. Et le politique, il est dans une équation qui est difficile. Il y a le syndrome Malipkeusekim, on ne veut surtout pas de victimes. Mais on a les médias, avec les médias qui sont en continu maintenant avec des images. Donc les gouvernements ne peuvent plus accepter qu'on casse, alors qu'avant, on n'avait pas des images en continu. Là, les Français, ils sont immergés quand ils voient les Champs-Élysées. Ils ont l'impression que ça se passe chez eux. Et donc, on a ce syndrome-là, des politiques qui veulent beaucoup de fermeté, mais en même temps, pas de casse, qui est compliqué à réaliser. Et donc, c'est vrai que c'est une équation difficile. Mais on paye aussi le fait que les politiques, pendant 30 ans, ils ont dit, bon, le maintien de l'ordre, finalement, ça va se terminer, les syndicats, il y en a moins, on va avoir moins de maintien de l'ordre. Donc, on n'a pas fait d'investissement. Les véhicules blindés qu'on a utilisés pendant les Gilets jaunes, ils ont 45 ans. J'espère que votre voiture n'a pas 45 ans.
Mais enfin, ça faisait un peu zone de guerre. Hein,
voilà, donc on n'a pas des véhicules adaptés. On a des lanceurs d'eau, on n'en a pas suffisamment, parce que ça, c'est justement un moyen qui permet de ne pas utiliser peut-être d'autres armements. Mais on en a quelques-uns, mais
c'est
pas suffisamment.
On en utilise peu en France, alors qu'à l'étranger, on en voit beaucoup plus, c'est parce qu'ils sont mieux équipés.
Parce qu'on n'en a pas acheté. Voilà, à des moments, il faut acheter les matériels. Et donc, on n'a pas eu de réflexion sur les drones, sur le fait qu'on puisse utiliser des marqueurs indélébiles d'ADN quand des individus font des agressions, des casses. Donc, on a tout un tas de matériel et de réflexion. On a diminué les effectifs sous Nicolas Sarkozy. On a diminué le nombre d'escadrons, le nombre de CRS. Donc, tout ça a fait qu'on l'a payé un petit peu pendant les Gilets jaunes. On a vu qu'on n'avait pas les matériels, pas les personnels. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé...
Donc, est-ce que la doctrine doit évoluer avec ce qui s'est passé au terme de cette année des Gilets jaunes là?
Bien sûr, il faut toujours analyser, faire des retests sur ce qui s'est fait.
C'est nouveau, comme vous disiez, là c'est non préparé, improvisé, et il y a en plus des infiltrations de Black Bloc, vous le disiez à l'instant.
Tout à fait, il va falloir réfléchir, mais je rappelle que Gérard Collomb l'avait dit après les manifestations de la loi travail, on va mettre en place une réflexion, mais vous savez, les ministres, comme il y en a 10 qui sont passés en 10 ans, les réflexions on les annonce, mais après elles ne se font plus, donc on va voir. Mais il faut des réflexions, du matériel, mais après il n'y aura jamais de solution parfaite. Parce que le maintien de l'ordre, c'est éminemment politique, il y a toujours des risques et il y a toujours une forte exploitation par rapport à ce qui se passe sur le maintien de l'ordre.
Et puis n'oublions pas une chose qui a été maintes fois répétée par les policiers sur le terrain pendant l'année, c'est que les policiers qu'on voit sur les écrans, ils répondent à des ordres et à des directives qui sont données au-dessus. Si on leur dit de ne pas bouger, ils ne bougeront pas. Si on leur dit de bouger, ils bougeront. Et ils étaient très frappés de dire, en fait, le maintien de l'ordre, nous, on sait faire.
Il n'agit jamais en dehors des ordres.
Simplement, les directives.
Kay Wilson à Nantes, ils n'ont pas obéi à quelqu'un, là, non?
Si. Ah, bah si, on leur a demandé, on leur a dit à 4 h du matin, c'est fini, vous coupez la musique. Ils sont allés couper la musique à 4 h du matin. C'est un ordre.
un très policier, pyramidal.
Ah bah, c'est un fonctionnaire de police, il ne va jamais aller. Il va jamais,
notamment
il va jamais aller prendre ce type de risque.
Dans un mois, il y a le G7, tous les chefs d'État à Biarritz. Est-ce que là, on peut se faire déborder ou ça, on sait faire ça, paralyser une ville, il n'y a plus personne qui passe, et là, il n'y aura aucun risque Ou bien là aussi, on peut se faire surprendre, non, Christophe Rouget?
On peut se faire surprendre, évidemment. Alors, il y a un dispositif qui est mis en place. Alors, il y a souvent des contestations qui se font une semaine avant le véritable G7. Sur la ville, pendant le G7, il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes. Mais on a vu, à l'occasion des différents grands rendez-vous comme ça, européens ou mondiaux, qu'il y avait des forts problèmes avec les manifestants, notamment en Allemagne, en Italie, où on a eu des morts, des blessés. Parce que vous avez des gens qui viennent de toute l'Europe, justement.
Mais on ne sait pas paralyser une ville?
Globalement, on sait très bien faire une zone d'exclusion aujourd'hui, pendant la durée du sommet, pour ça on sait très bien le faire. La question qui s'est posée cette année, c'est que il y a eu une évolution des types de contestations et ça va continuer, il va y avoir de nouvelles formes de manifestations et l'erreur serait de considérer que le mouvement des Gilets jaunes étant peut-être en train de s'éteindre, eh bien c'est bon, le problème est réglé. On voit que depuis des années, chaque mouvement social est un peu plus violent que le précédent et que ça évolue. Et donc la question pour les forces de police, c'est de se préparer à la suite, c'est qu'est-ce qui va arriver ensuite et est-ce qu'on est en mesure, en termes de matériel évidemment, mais aussi en termes de réflexion, en termes de stratégie sur le terrain, de répondre à l'évolution de ces mouvements sociaux qui va se poursuivre dans les mois qui viennent.
Ivan Trippenbach, on m'annonce à l'instant qu'il y a de très nombreux appels sur les réseaux sociaux, ça commence, à des manifestations à Nantes, samedi, tous pour Steve, etc. Le gouvernement n'en a peut-être pas fini avec cette histoire, hein. On va voir ce que ça donne, ces appels à la manifestation.
Oui, bien sûr, c'était la grande crainte du gouvernement, ce n'est pas étonnant du tout. Il y a déjà eu des manifestations en soutien de Steve lorsqu'on ne savait pas où était le corps encore. Donc bien sûr, ça va continuer, on va voir quelle va être l'évolution également à la rentrée, mais si on a des manifestations en plein cœur de l'été, c'est en tout cas ce que redoutait la place Beauvau.
D'ailleurs, Édouard Philippe ne devait-il pas être en vacances? On voit qu'il est hier, en tous les cas, il était à Matignon.
En tout cas, il n'a pas été rattrapé aux côtés de son ministre.
Pour
le moment.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors justement, pourquoi Emmanuel Macron n'est-il pas autant montré du doigt que son ministre ?
Alors, c'est le ministre qui est compétent, qui est en charge de la police nationale, la gendarmerie nationale. C'est tout à fait normal qu'il soit en première ligne. Après, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet, il s'est dit préoccupé, il a passé plusieurs coups de fil à Édouard Philippe ces derniers jours, donc tout ça est tout à fait normal.
N'est-il pas logique que la police soit plus ferme quand les manifestants deviennent plus violents ? C'est ce que vous disiez, Damien Delceni, c'est une course à l'échalote.
C'est la riposte, oui.
Mais alors, ça, on peut l'entendre ou pas? Parce que ça a fait polémique, cette position qui consiste à dire les Gilets jaunes sont violents parce que la police est violente. Au fond, à la violence policière répond la violence citoyenne. Beaucoup de gens disent...
Oui, dépend. On ne mettra jamais personne d'accord. Enfin, les policiers, dans leur immense majorité, réfutent le terme de violence policière.
Ils disent non, c'est la force du droit.
Eux, ils ont le droit d'utiliser la force. Voilà. Les policiers, ils ont le droit. C'est prévu par les textes. Ils ont le droit d'utiliser la force. En revanche, un manifestant, en théorie, n'a pas le droit de le faire.
Pas à se faire justice lui-même. Enfin,
Mais après, de savoir effectivement qui a commencé ou qui a été plus violent que l'autre. Typiquement, à Nantes, sans rentrer dans le détail de l'enquête, à Nantes, les premières violences, elles viennent des gens qui font la fête et qui ne veulent pas arrêter de faire la fête.
C'est pour ça que dans cette réflexion pour l'avenir sur le maintien d'ordre, on doit avoir un seul objectif. Comment limiter le nombre de blessés parmi les forces de l'ordre? Parce qu'il y a énormément de blessés qui...
Et vous trouvez qu'on en parle peu? Ou ça dépend?
Souvent, parce qu'on n'a pas la même possibilité, nous, sur les réseaux sociaux, de montrer des photos, par exemple, de policiers qui sont blessés. Vous voyez, on n'a pas cette possibilité-là. Mais la réflexion qui doit se faire à l'avenir, c'est... moins de blessés parmi les forces de l'ordre, moins de blessés parmi les manifestants. Ça doit être au cœur de notre réflexion. Comment on peut organiser demain un maintien de l'ordre qui soit efficace, et en trouvant des matériels, en trouvant des conditions d'utilisation de ces matériels qui permettent qu'il y ait moins de blessés parmi tout le monde. C'est l'intérêt de tous.
Vous avez l'air de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la transparence, c'est la manipulation. J'ai l'impression que vous dites qu'il y a pas mal de...
Bien sûr.
Vous avez l'air de dénoncer des montages, non ? Ou des vérités partielles,
des montages, des fake news qui sont repris par des hommes politiques. Donc, on l'avait bien vu avec l'utilisation, pendant les gilets jaunes, de grenades lacrymogènes qui étaient jetées d'hélicoptères. Voilà.
Comment l'IGPN peut-elle être aussi formelle dans ses conclusions ?
Encore une fois, il y a eu une utilisation politique qui a été faite de ce rapport, où en gros il a été présenté politiquement comme un rapport qui exonère les forces de police. le rapport de l'IGPN n'exonère pas les forces de police. Le rapport de l'IGPN dit, à ce stade, nous n'avons pas de preuves qu'il y a un lien entre l'intervention des forces de police et la mort de Steve Maya Caniço, et donc la présomption d'innocence s'appliquant également aux policiers, nous ne pouvons pas dire que les forces de l'ordre sont responsables de sa mort. C'est ce que dit formellement le rapport. Et ça, en ça, c'est factuel, il n'y a pas de preuves que l'intervention de police a provoqué la chute de Steve Maya Caniço. Encore une fois, la question ensuite dans le rapport, elle est-ce que cette intervention était proportionnée et justifiée? Et ça, ça sera à l'enquête maintenant de l'IGA et puis l'enquête judiciaire de le déterminer par la suite. Et c'est là qu'est vraiment le nœud du problème. Tant qu'il n'y aura pas un témoin qui racontera la façon, ou tant qu'on ne trouvera pas des éléments qui montrent comment Steve Maya Caniço est tombé dans l'eau, la question de cette chute, elle restera quand même assez mystérieuse.
Alors, quelles sont les missions et comment fonctionne l'IGA? Donc, l'inspection générale de l'administration saisie après la mort de Steve. Elle s'inquiète, elle vérifie que les préfets et les mairies respectent bien.
Oui, c'est ça. Elle contrôle. C'est un organe qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui est compétent pour contrôler tous les services du ministère de l'Intérieur, voir comment elles ont agi dans leurs prérogatives. Et donc, effectivement, elle est compétente pour dire si un préfet a failli ou pas dans sa mission.
L'air de Nantes est très remontée, hein, parce qu'elle sent bien qu'elle va être visée par cette enquête administrative.
Elle est déjà dans l'enquête de l'IGPN, en tout cas.
Alors, la maire de Nantes, donc Johanna Roland, ne devrait-elle pas faire profil bas alors que la sécurité n'était pas assurée, au lieu de demander des explications au gouvernement? Très vite, ça va rebondir sur le champ politique, cette affaire.
Bah, de toute façon, par définition, j'ai l'habitude de penser que quand un fait divers devient politique, ça devient très compliqué. Parce qu'on ne s'attache plus en réalité aux faits, et après on fait du commentaire, et tout le monde fait du commentaire. Il y a depuis 3 jours... Une cohorte de spécialistes du maintien de l'ordre dans la classe politique française, je trouve ça intéressant d'ailleurs, de Jacques Lang, à plein de gens qui ont plein d'idées.
C'est vrai que ça a été excessivement commenté.
Voilà, des spécialistes qu'on ne connaissait pas.
Beaucoup d'idées sur le maintien de l'ordre. Et voilà, le risque c'est ça, c'est qu'après on est dans le commentaire, et forcément le commentaire il est subjectif, donc voilà, après c'est son droit aussi. Elle, au départ, elle a juste demandé à ce qu'il y ait un peu de transparence, ce qui n'est pas en soi une demande complètement illégitime.
L'autopsie pourra-t-elle révéler si Steve a respiré des gaz lacrymogènes? Alors ça, c'est ce que révélera l'enquête. Le problème de ces enquêtes, c'est qu'elles sont très longues, qu'elles ne répondent pas à l'émotion et au...
C'est le temps. Là, il y a eu une autopsie. L'autopsie, quand on fait une enquête criminelle, elle va permettre de savoir d'abord si c'est noyé ou non. Ça, c'est la première des choses à savoir, s'il n'a pas été tué avant. Donc ça, c'est la première des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Visiblement, il s'est noyé, mais on ne sait pas. Ensuite, on fait des prélèvements qui permettent de savoir s'il y a eu des toxiques. Les lacrymogènes, c'est la première fois que j'entends parler. Est-ce qu'on pourra vérifier s'il y a eu utilisation de gaz lacrymogène? Je ne sais pas. Mais on va vérifier s'il y a eu éventuellement de l'alcool. Ça risque d'être compliqué parce que le corps est resté longtemps dans l'eau. Et ensuite, des toxiques, des drogues. Et tout ça, c'est des éléments qui vont essayer d'apporter un petit peu un éclairage sur ce qui s'est passé. Mais c'est très long. C'est ça la difficulté, parce que là, on est dans une phase de commentaires, de médiatique et tout ça. Et donc, des gens qui ont fait des conclusions...
6 mois, une enquête judiciaire?
Ça va être beaucoup plus long. Beaucoup plus long.
Et avec, encore une fois, la possibilité très forte qu'on ne sache jamais vraiment. Parce qu'il faudrait trouver le témoin qui l'a vu, basculer dans l'eau.
Donc on sera complètement passé à autre chose quand on aura les résultats.
Le témoignage est toujours relatif, en plus. Hein.
C'est vrai qu'il y a une exigence de l'opinion d'avoir une réaction et d'avoir des éléments sur cette enquête. Et c'est très compliqué. On voit que le choix du gouvernement de publier ce rapport de l'IGPN hier, il pose des questions. Ce rapport de l'IGPN.
Il datait du 16 juillet, en plus.
Il a été validé par l'IGPN le 22 juillet, transmis à Christophe Castaner dans la foulée. Et Christophe Castaner explique que derrière, il ne l'a pas publié tout de suite parce qu'il voulait en présenter les conclusions d'abord à la famille, et puis finalement, cette rencontre n'a pas pu se faire, le corps a été retrouvé, et à ce moment-là, il décide de publier le rapport, ce qui a choqué d'ailleurs la famille, qui a dit, bon, on vient d'apprendre que notre fils est mort, et dans la foulée, on nous dit tout de suite que ce n'est pas la faute des policiers, c'est un peu dur à entendre, donc la famille n'a pas compris. Et en même temps, à la décharge du ministre, il n'y avait pas de bon timing. S'il l'avait publié à 2 semaines, on aurait dit « on n'a même pas retrouvé le corps, pourquoi vous publiez le rapport ?» Là, il est publié là, pour la famille, c'est difficile. Et s'il ne l'avait pas publié, tout le monde aurait dit « pourquoi vous ne publiez pas le rapport ? Est-ce que ça cache quelque chose ? Il y a un scandale ?» Donc il n'y avait pas forcément de bon timing. En tout cas, le timing choisi de dire « on garde le rapport et on publie au moment où on trouve le corps », voilà, ça donne forcément une image un peu politique de l'utilisation de ce rapport, qui n'est pas forcément heureuse. Mais encore une fois, est-ce qu'il y avait un bon timing ? J'en suis pas sûr.
La police va-t-elle conserver les LBD, donc ces lanceurs de balles de défense, qui sont à l'origine de nombreuses personnes qui ont perdu un œil. Hein.
Ce qui est certain, c'est que le ministre a toujours défendu l'utilisation de cette arme qui, à l'origine, est censée mettre à distance, enfin, je parle sous le contrôle de Christophe Rouget, mettre à distance les manifestants dangereux ou violents. Ce qui est étonnant, c'est qu'en pleine crise des Gilets jaunes, juste avant le limogeage du préfet de police de Paris, il était mécontent parce que ses services avaient changé, les services de la préfecture de police avaient changé un peu plus vite des munitions de LBD, des munitions qui blessent moins que ce qu'on a vu en décembre, par exemple. Et là, Christophe Castaner a dit les services de la préfecture de police n'auraient pas dû changer ces munitions aussi rapidement. Et il a pris ça comme prétexte pour se séparer du préfet de police. Donc c'est un peu compliqué. Ouais.
Y a-t-il un lien entre le taux de suicide dans la police et les difficultés rencontrées par les policiers pour remplir certaines de leurs missions ?
Évident qu'il y a un lien. Malheureusement, on voit bien que lorsqu'un policier se suicide dans un commissariat avec son arme, c'est un acte fort pour montrer souvent à l'administration, même si c'est quelque chose de compliqué, le suicide, il y a souvent d'autres facteurs qui viennent là, pour montrer à l'administration qu'il y a effectivement un problème. Et on est sur un nombre quand même cette année on s'oriente vers un record. Mais depuis 20 ans, on est à 1200 policiers qui se sont donné la mort, malheureusement.
Encaisser les provocations, on se souvient de ces suicidez-vous, là, de certains.
Il faut encaisser toutes ces provocations et au-delà des services d'urgence qui sont mis en place, il faudra mettre en place quelque chose pour résoudre ce problème de fond.
Oui, quoi, je sais plus, vous vouliez.
Non, c'est chaque suicide est une histoire personnelle et particulière, mais ce qui est certain, c'est que les conditions de travail des policiers, qui sont assez difficiles pour la plupart, sont clairement un élément aggravant.
Allez, toute dernière question. Depuis la victoire des zadistes, certains ne se croient-ils pas tout permis ? Ça a donné.
C'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le climat sécuritaire. C'est évidemment compliqué à gérer. Oui.
Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 22h40. On se donne rendez-vous demain. Pour un nouveau C'est dans l'air, merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.